Ravi, messieurs, dames, d'être en votre compagnie. Le point sur l'actualité nationale en français, c'est tout de suite. Il est 18h, bonsoir. Au sommaire de ce journal, plus de 2,5 tonnes de résine, de cannabis et d'autres drogues dures saisies à Niamey en 2018, ainsi que 1043 personnes interpellées. Vous entendez le chef de division formation et communication de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants Octris. Retour sur les écoles primaires privées fermées récemment à Niamey parce que non conformes aux règles en vigueur. Sur 19 écoles, 7 sont définitivement fermées. Les explications dans ce journal du directeur régional de l'enseignement primaire. La situation des jeunes filles domestiques employées et exploitées chez des particuliers dans des restaurants et bistrots et dans bien d'autres secteurs, nous en parlons ce soir et c'est dans la partie magazine de cette édition. Bienvenue à tous. Plus de 2,5 tonnes de résine de cannabis et 1043 personnes ont été interpellées en 2018 à Niamey par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants Octris, selon le chef de division formation et communication de Octris, Djibrila Amidou Sorko. Le Niger est non seulement un point focal du trafic de drogue, il est devenu aussi un pays consommateur. Au micro de Tarnafoud Ahmed, il dresse le bilan des drogues saisies à Niamey en 2018.
La saisie de 2018 niveau Niamey en cannabis, on a saisi 320 809 grammes d'herbe de cannabis, 2,530,217 tonnes en résine de cannabis. En tramadol, on a saisi 477 053 comprimés. En cocaïne, on a saisi 5,786 grammes. En crack, on a saisi 117 grammes. On a interpellé à Niamey 1043, dont tout âge et nationalité confondus.
Il y a une grande prolifération de la drogue. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous?
Au départ, le Niger n'est que considéré comme pays de transit. Aujourd'hui, le Niger fait les deux. Non seulement c'est un point focal pour le transit de différentes drogues, mais aussi le Niger est en train de devenir un pays consommateur. Et là où le bas blesse, la majorité des jeunes aujourd'hui consomment de la drogue.
Sur les 19 écoles primaires privées fermées à Niamey, 12 se sont mises en règle et les 7 autres restent fermées définitivement. C'est ce que nous apprend le directeur régional de l'enseignement primaire, Bourayma Harouna, interrogé ce matin par Okayatou Abdourahmane.
Sur les 19 écoles fermées, 12 ont eu des arrêtés d'ouverture. Et sur les 12, 8 ont eu des arrêtés d'ouverture provisoires du 31 décembre 2018 au 30 juin 2019. 7 écoles ont été définitivement fermées. Il s'agit du complexe scolaire privé Le Pédagogue, du complexe scolaire privé La Cité du Soleil, du complexe scolaire privé Le Déclic, du complexe scolaire privé franco-arabe Nourou Zamani, du centre Rahama ONG Tabia, du jardin d'enfants privé La Peluche de Bobiel et du jardin d'enfants privé Tawenya. Ces écoles qui ont été fermées, les parents ont commencé à transférer les enfants dans les écoles publiques. C'est une bonne chose. L'école publique nigérienne aujourd'hui est une école de qualité. Parce que rien qu'à Niamey, si nous prenons, tous les enseignants des classes de CI, CPC1 ont été formés. Mais l'année passée, 500 directeurs ont été formés. Cette année, 450 directeurs ont été formés.
Le braconnage menace sérieusement la faune sauvage au Niger, s'alarme l'Association des chasseurs du Niger. Le secrétaire général de cette association relève que les grands et petits mammifères sont les espèces les plus menacées par le braconnage. Mokhtar Taya Abdourahmane est au micro de Mokhtar Amadou.
Le braconnage aujourd'hui, vraiment, c'est un mal pour la faune nigérienne. Nous interpellons l'autorité chargée de la protection de la faune pour prendre vraiment des mesures idoines qui vont décourager ceux qui pratiquent cette activité illicite de braconnage sur la faune nigérienne. Le braconnage a pris de l'ampleur aujourd'hui. C'est même des endroits où on ne s'attendait pas à voir le braconnage que nous constatons que des personnalités prennent ce plaisir d'aller faire ce braconnage dans ces zones-là. Sinon, le braconnage concerne sur l'ensemble du territoire du Niger. Mais aujourd'hui, l'ampleur du braconnage a touché des endroits endroits très sensibles. Et je vous donne un exemple, par exemple le parc national W, qui est un patrimoine national et international, aujourd'hui est menacé par ces genres d'activités de braconnage. Et c'est ça qui nous fait mal. Les espèces concernées par ce braconnage sont seulement surtout les grands mammifères et les petits mammifères. Si vous prenez l'exemple des buffles, l'hippotrate, les biches, l'orcas, ainsi de suite.
Au bord du fleuve Niger s'est développé le maraîchage durant toute l'année. Des jardiniers font de ces cultures de légumes leur fonds de commerce. Pour écouler ces produits, ce sont les commerçants détaillants des marchés environnants qui viennent acheter les produits, selon Bilal Abdou, un jardinier que notre reporter a retrouvé sur place pour produire par Moutari Mahamadou.
On travaille ici dans tous les moments. C'est l'eau du fleuve qui vient gratuitement. On arrose, on graisse et on plante. Maintenant, si on plante la salade, ce sont les gens même qui vont venir payer ça ici. Mais les autres, comme le goma là, avec d'autres, les chapata, et c'est les femmes qui vont venir enlever ça ici. Bon, les choux pommés, c'est pas tout le monde qui met ça, puisque lui, ça demande beaucoup de moyens. Ce qu'on va mettre, ils sont variés. Comme maintenant la saison froide, on va mettre la salade, le persil, céleri. Bon, on gagne de l'intérêt puisque si on travaille à la fin de la récolte, on va trouver quelque chose qu'on va satisfaire notre besoin. La salade, lui, surtout la salade du Niger, il s'épanouit ou bien il est bon dans la saison de froid maintenant. Alors que la saison sèche ou la saison pluvieuse, c'est l'autre salade, là, le palma. Lui aussi, il faut beaucoup d'entretien.
Au bord, toujours au bord du fleuve Niger, les pépinières sont aussi visibles. Des fleurs de décoration, des plants d'arbres divers sont produits par ces jardiniers pour la vente. D'autres plants de cocotiers, manguiers et autres sont même importés des pays côtiers, comme l'explique Abdoulaye Bankano au micro de Moutari Mahamadou.
Nous obtenons la majorité des fleurs par bouture à partir de prélèvement des espèces dans les maisons. Nous en importons d'autres comme le cocotier du Nigeria, du Bénin, du Togo ou la Côte d'Ivoire. Pour le reste, nous le produisons sur place. Ceux-là, par exemple, sont des citronnelles, ici du basilic et des bougainvillea. Il y a aussi ces manguiers ordinaires et même des manguiers greffés. Les greffés, nous le prenons à l'écrisate, mais d'autres font le greffage eux-mêmes. J'ai commencé cette activité il y a 3 ans. Et Dieu merci, par jour on peut gagner 50 000, 20 000 ou 1 000 francs. Et des fois, rien du tout.
Le non-respect des normes et techniques de plantation d'arbres entraîne des désagréments inattendus. Selon un spécialiste, c'est le cas de l'eucalyptus des Maines, ou de l'arbre appelé communément étagère. Le commandant Bakoy Souleymane de la Direction régionale de l'environnement de Niamey explique les précautions à prendre au micro de Gungou Maman Dantani.
C'est surtout le manque de respect des normes techniques, des distances de plantation qui causent vraiment ces problèmes. Si on veut planter les limes ou les eucalyptus, c'est à 3 mètres du mur. Il faut respecter ces distances pour éviter tout autre problème en futur, surtout les racines qui peuvent vraiment endommager l'ouvrage, le mur et autres. Et en dehors de ça, un arbre comme eucalyptus ou bien le nîmes, un an après la plantation, il y a un entretien qu'on fait. On lui donne une forme d'orientation en fonction de ton espace pour vraiment l'orienter pour éviter des problèmes. Ce qui suit, il est d'origine asiatique. C'est vraiment un arbre très utile, qui est très résistant, qui s'est adapté à notre climat et qui a vraiment réussi. Par rapport à l'étagère, je ne le conseille pas dans des constructions, mais en dehors, surtout de l'écarter 4 mètres du mur à partir de la première, deuxième année. Il y a une forme d'orientation qu'on lui donne. C'est vrai, ils ont des racines persantes. Mais bien qu'ils ont des racines persantes, si vraiment on respecte les normes techniques, je pense que le problème ne se pose pas. Ce qui est très important, il y a des spécialistes qui sont là, il faut les demander, conseil, vraiment, ils vont vous aider pour éviter des problèmes.
3%, c'est le taux de taxes et impôts recouvrés par la commune de Matamé en 2018 et la commune rurale de Kantia a recouvré seulement un tiers des recettes espérées en 2018, une faiblesse qui entraîne le fonctionnement des mairies, constate le préfet du département à l'issue d'une tournée effectuée la semaine dernière, le préfet Moussa Saabou au micro de Abou Sarki.
L'étape particulièrement qui a attiré beaucoup mon attention, c'est la commune urbaine de Matamé, où nous avons constaté une très très faible mobilisation, notamment toute estimation faite, nous sommes à 3% de recouvrement. Ça nous a amené à envisager des mesures pour pouvoir recouvrer les impôts et taxes. Nous, en tant que représentants de l'État, nous sommes tenus de veiller à ce que toute la chaîne, en tout cas de recouvrement, soit bien assainie, pour que l'argent rentre effectivement dans les communes et que cet argent soit utilisé à bon échéant, c'est-à-dire conformément au principe de la comptabilité publique applicable à l'État. Donc j'ai demandé au maire d'établir les correspondances en direction de tous les services techniques, à commencer par la préfecture, pour qu'on s'acquitte des taxes de voirie. Et nous allons assainir tout le système de recouvrement de notre département pour que les communes puissent respirer, parce que c'est le poumon de nos communes, c'est le poumon de notre économie. Quand les taxes ne rentrent pas, la commune ne peut pas tourner.
Acha Academy, Soko Academy, Saka Sport, Aïr Academy Agadez et Arsenal Academy Zender sont les 5 écoles de formation de jeunes footballeurs au Niger. Des footballeurs évoluant dans des clubs locaux et à l'étranger. D'autres précisions avec Abdoulaye Diallo, chargé de la scolarisation à Acha Academy de Niamey.
2007, à nos jours-là, on a plus de 200 joueurs qu'on a pu former ici à Acha. En équipe nationale, on a au minimum une vingtaine ou trentaine de joueurs, de seniors jusqu'au équipe nationale U17 là. Il y a des joueurs d'Acha Academy qui évoluent dedans. À l'extérieur, pour le moment, on a un seul joueur qui s'appelle Adebayor. Présentement, il s'évolue à Danemark. Dieu merci, maintenant les gens commencent à s'intéresser au football. 2017-2018, on commence par le club, parce que Acha, quand tu finis c'est une formation de 4 ans et il y a un club de 2e division que tu vas évoluer. En club de 2e division, on a 25 joueurs et dans la salle de Madame Garabay, donc dans sa classe, on a à peu près une quarantaine d'élèves dans la classe. Et au niveau des garçons, il y a U15, on a 25, U17, on a 25 et au niveau des filles, on a 25.
Propos recueillis par Alamine Ouachara. Niamey en football, la 3e journée de la Super League se poursuit ce jeudi avec 3 matchs au programme. Le Sahel Sporting Club de Niamey affronte l'Espoir de Zender. La SN Nigelec de Niamey joue contre l'Ako Canadarlite et le Racing Club de Niamey sera face à l'Urana Darlite. La partie magazine de ce journal à présent au Niger et particulièrement à Niamey. Depuis des décennies, de nombreuses jeunes filles étrangères sont employées et exploitées chez des particuliers dans des restaurants et bistrots et dans bien d'autres secteurs. Pour Maimouna Gogé Gazobi, directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, dans certains cas, c'est purement de la traite de personnes. Les différentes explications, implications et responsabilités dans cet entretien accordé aux Studio Kalangou.
C'est des femmes béninoises, des femmes togolaises qui recrutent des jeunes filles du Bénin, des jeunes filles du Togo. Elles les placent dans les bars, elles les placent dans les foyers, elles les placent dans la prostitution.
Est-ce que vous, particulièrement, vous êtes imprégné de ces agences, même si c'est des particuliers?
Ces entreprises-là, on ne peut pas les poursuivre sur le plan pénal, mais on peut porter plainte contre elles devant le tribunal du travail. Je vous explique. Lorsqu'aujourd'hui, une entreprise privée de placement recrute un vigile, l'entreprise forme le vigile et c'est l'entreprise qui démarche, par exemple, la BIA pour placer le vigile. Cela va de soi que la BIA paye l'entreprise et non le vigile. Et maintenant, à l'entreprise d'avoir un contrat de travail entre elle et le vigile qu'elle va payer. Vous allez trouver des vigiles femmes. Ces femmes ne sont pas maltraitées, mais elles sont sous-payées. Si elles sont payées en deçà du SMIC, le salaire minimum, qu'elles saisissent le tribunal de travail. C'est tout à fait légal. Par contre, ce qui est intéressant, les mêmes entreprises de plafond, quand elles placent par exemple des domestiques ou des vigiles à Niamey, ces gens sont souvent sous-payés. Ces mêmes entreprises, lorsqu'elles placent des Nigériens à l'extérieur, abusent. Là, elles ont la possibilité de confisquer les documents de voyage. De l'autre côté, c'est carrément de la traite des personnes. Et les servantes étrangères, il y a beaucoup de femmes qui les placent et qui récupèrent directement de l'argent. Plusieurs fois avec le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, on a condamné des femmes à 5 ans de prison pour des délits comme ça. Souvent, c'est des mères effondrées qui quittent le Bénin parce que 2-3 ans, elles n'ont aucune nouvelle de leur enfant qui arrive ici. Une entreprise privée, ce n'est pas parce qu'elle a habilité à fonctionner qu'elle ne viole pas les règles. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'aspect légal, la forme. Et non, c'est ce que l'entreprise privée fait de la main-d'œuvre qu'elle place. Est-ce qu'en plaçant les bonnes, elle les place dans des conditions inhumaines et dégradantes? Est-ce que ces personnes travaillent au-delà des heures normales? C'est ça qui permet de parler d'abus. Est-ce qu'elles ne subissent pas des viols, des injures? Est-ce que dans le fonctionnement, vous ne violez pas les lois de la République?
Entre le cadre formel, le cadre informel, de cette situation, quelle est celle que vous trouvez la plus grave?
Dans le cadre informel, il y a moins d'abus. Prenons toutes les femmes de Wolom qui viennent. C'est vraiment dans un cadre informel qu'elles sont dans des foyers. Je n'ai jamais eu d'abus, un dossier où on m'a dit une femme nigérienne qui est placée dans un foyer nigérien est victime de traite de personnes.
C'est la fin de cette édition. On place tout de suite au forum de Studio Kalangou, présenté ce soir par Reilato Soumana, le thème « Réalisation droit à la santé au Niger ».